d'une autoroutière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises. Antoine.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, que retenir de la première moitié de campagne du Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime? On en discute avec Gabriel Côté, reporter à QMI, qui est dans la caravane conservatrice depuis le tout début de la campagne. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, le chef à la broue dans le toupette aujourd'hui.
Hey, il y a beaucoup de choses, hein, et pourtant, Dieu sait que normalement, ça devrait être plus tranquille parce qu'il y a un peu une semi-pause dans la campagne électorale parce que les chefs se préparent au débat, mais pourtant, il y a encore beaucoup de choses qui retiennent notre attention.
Notamment, d'autres tuiles sur la tête de Dominique Anglade. Moi, j'ai un petit segment là avec Foisy et Dutrisac le midi où ça s'intitule « Les tuiles du jour ». Et donc, il y a une autre tuile et ça va pas bien pour Dominique Anglade.
Oui, parce que le Parti libéral du Québec s'est trompé dans son cadre financier. C'est une erreur de 12 milliards de dollars au minimum, parce que je te dirais que tout juste avant qu'on procède à l'enregistrement, Antoine, j'ai vu que finalement, c'était possible que ce soit en fait 16 milliards qu'il y ait de différence. Mais bon, on va se limiter au fait que pour l'instant, c'est sûr qu'il y a une erreur de 12 milliards. Et dans le cadre financier, et tu sais, les auditeurs pourraient dire, bon, OK, dans le cadre financier, il y a des engagements électoraux, on se doute que les libéraux ne seront pas... porté au gouvernement le 3 octobre, donc tout ça est un peu théorique, mais la raison pour laquelle c'est extrêmement important, c'est que c'est un exercice de crédibilité. Je pense qu'on s'en parlait d'ailleurs la dernière fois quand on a parlé de Québec solidaire, qu'il y avait des trucs qui passaient pas et sur lesquels il y a dû faire des reculs.
Oui.
Alors, donc c'est pour cette raison-là que c'est très important, parce qu'on choisit qui va gouverner le Québec, qui va diriger les destinées. Et on sait justement que préparer un budget, ben c'est compliqué. Les électeurs, à un moment donné, font un choix en fonction de ceux qu'ils jugent les plus crédibles, les plus solides. Et là, quand t'arrives que t'es le parti de l'économie, historiquement, et que t'arrives avec un cadre financier dans lequel il y a une erreur de 12 milliards, qui change même ton ratio dette-PIB que tu as inscrit dans le cadre financier pour le Québec au cours des prochaines années, mais là, ça devient une bourde qui entache ta crédibilité comme parti. Le Parti libéral, écoute, on pourrait pas le dire autrement, ils ont l'air fous avec cette erreur-là. Et j'ai trouvé vraiment douteuses les explications de Carlos Letao, qui quand même, bon,
mais oui,
est allé...
Oui, parce qu'ils ont fait un point de presse, hein?
Oui, c'est ça. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est la presse qui a révélé en premier cette erreur-là. Ils ont confronté Carlos Letao, qui est l'ancien ministre des Finances, donc il devrait connaître ça. Et c'est lui qui a fait le cadre pour le Parti libéral, même s'il ne sollicite pas un nouveau mandat. Lui est un député sortant qui ne sera plus là après le 3 octobre. Mais on a souvent dit qu'il était... justement un peu la crédibilité du Parti libéral en matière d'économie, de finances. Et donc, il a admis à la presse qu'il y avait une erreur. Et là, les autres médias se sont emparés de l'affaire ce matin. Et en point de presse à Québec avec Marc Tanguay, là, il dit d'abord, c'est des choses qui arrivent. Non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une erreur de 12
milliards.
Non, c'est ça. Alors, premièrement. Deuxièmement, il plaide que... ils ont manqué de ressources à l'interne au parti, tu sais, pour expliquer ça. Et surtout, ce que je trouve bizarre, il dit que c'est complexe, mais franchement, un cadre financier, tous les partis doivent en produire un en campagne électorale. Il a de l'expérience, il a été ministre des Finances, et là, il arrive puis il dit...
Il y a un rapport maintenant qui est déposé par le ministère des Finances avant
la campagne, un rapport qui est vérifié par la vérificatrice générale. Alors, ils partent d'une base assez solide, là.
Ben oui.
Il me semble que ça réduit la possibilité d'erreur, d'exagération. C'est pour ça que c'est une avancée. Mais là, quand même, Carlos Letao nous dit non, c'est très compliqué, donc c'est pour ça qu'on s'est trompé. Incroyable. Ouais.
Ben, puis, tu sais, le rapport présenté par la vérificatrice générale, c'était quand même une bonne semaine avant le début de la campagne électorale. Écoute, on va prendre ses mots. Lui, il plaide que...
Juste pour l'expliquer aux gens, on a sous-estimé finalement l'effet des engagements libéraux ou de plusieurs engagements libéraux sur la dette, c'est ça?
Oui, c'est comme si, en fait, aussi, ils avaient sous-estimé ou mal calculé l'impact année après année sur la dette.
C'est
ce qu'on a décodé. Et puis, c'est ça. Maintenant, ils disaient, oui, mais ça change rien à nos engagements et au fait qu'on ne va pas piger dans le fond des générations, bon, etc. Mais ça change quand même le ratio dette-PIB. Et ça, pour rappeler encore une fois aussi à nos auditeurs, de façon simple, c'est évidemment que le Québec a fait des déficits, et notamment en raison de la pandémie. Et quand ça s'accumule sur la dette, les gens, à un moment donné, se posent la question, est-ce qu'on est trop endetté? Là, on se compare avec d'autres États, puis tout ça. Mais la façon, dans le fond, de voir si on a exagéré, je dirais, en ce qu'on ajoute sur la dette, bien, c'est de voir par rapport à notre richesse comme État. Et donc ça, c'est important, le ratio dette-PIB, dans le fond, ça montre l'équilibre qu'on doit avoir en fonction de notre richesse. Un exemple super simple, rapide, la Grèce, par exemple, qui est un exemple d'État où on s'est ramassé vraiment en faillite technique, c'était justement en raison du trop gros poids de la dette par rapport à la faible proportion de richesse, de ressources naturelles, je dirais, de capacité de production de la Grèce. Et puis c'est un exemple, justement, là, où ça a vraiment très mal viré. Mais donc, c'est la raison pour laquelle c'est important.
Tu veux nous parler un peu du cadre financier conservateur, maintenant? Ça a été déposé ce matin. Moi, j'étais là. C'est particulier comme exercice.
Oui, c'est très ambitieux parce que il faut rappeler que les conservateurs d'Éric Duhaime, ce sont ceux qui présentent la baisse d'impôts la plus généreuse, la promesse de baisse d'impôts la plus généreuse, donc une diminution de 2%, et en plus il y a l'exemption de base qui a augmenté de 15 000 à 20 000, donc tout le monde au Québec en profiterait, et donc ça priverait l'État de 24 milliards de dollars de revenus sur 5 ans, mais malgré tout, ils prétendent qu'il y aurait des déficits juste pendant 2 ans, et qu'on reviendrait au surplus dès 2024-2025. Comment on fait ça? Là, ça prend une baguette magique, mais donc là, il parle d'effet dynamique qu'aurait l'économie, sur l'économie, dis-je bien, les baisses d'impôts.
Et oui, j'ai même posé la question à Éric Duhaime et Adrien Pouliot, l'ancien chef qui était là, qui a présenté le cadre. Je leur ai dit, coudon, êtes-vous en train de nous dire qu'il y aurait comme un effet conservateur, comme Denis Coderre prétendait qu'il y aurait un effet Coderre sur Montréal, ou le Parti libéral du Québec 2014 qui disait oui, il va avoir un effet libéral.
Oui, ben même les caquistes. Même les caquistes en 2018 aussi ont parlé d'un effet CAC.
Ben oui, effectivement. Donc, le simple fait d'être là, ben ça change la dynamique. Les conservateurs ont dit il y aurait quand même des bons effets à nos baisses d'impôts puis tout ça. On ne veut pas dire que c'est simplement nous, comme une équipe formidable qui arrivait au pouvoir, mais il y aurait quelque chose qui se passerait, mais c'est grâce à nos mesures, pas nécessairement grâce uniquement à notre présence.
Puis l'autre chose, c'est qu'ils disent qu'ils vont réduire les dépenses de l'État. Ils parlent de 32 milliards en 5 ans, donc c'est la raison pour laquelle, malgré leur généreuse baisse d'impôts, ils croient arriver à un surplus assez rapidement. Mais là, il y a par exemple compression dans l'aide aux entreprises. Ils parlent aussi d'aller chercher 9 milliards de dollars avec un plafonnement des dépenses. Et là, c'est particulier. Bon, ils disent qu'il n'y aura pas de coupure, par exemple, de budget, mais ils limiteraient l'augmentation des dépenses dans les ministères, même en santé. Donc, ils disent qu'à court terme, par exemple, il y aurait 1 milliard de moins sur le budget de la santé. Mais d'après eux, c'est raisonnable. Il y a quand même une croissance de dépenses, mais plus limitée que ce qui est prévu, par exemple, par le gouvernement actuel.
On parlait de tuiles pour Dominique Anglade. Parle-moi de Sylvain Lemieux, le candidat dans Côte-du-Sud, moi que j'ai rencontré lors de la première semaine de campagne des libéraux, puis il nous avait dit qu'il était pour le troisième lien à la Éric Duhaime. Ça avait mis Mme Anglade dans un malaise assez important. Il y a un nouveau malaise à propos de Sylvain Lemieux.
Oui, bien déjà, j'étais un peu étonné que Sylvain Lemieux reste candidat du Parti libéral, étant donné cette différence de vue qui est assez importante. Là, les libéraux sont complètement contre un projet de troisième lien qui passerait par l'île d'Orléans, tel que appuierait dans le fond M. Lemieux. Mais là, en plus aussi, on a appris qu'il a reconnu sa culpabilité à des chefs d'accusation de recel en 2015. Et malgré ça, donc, encore une fois, Dominique Anglade quand même le conserve dans son équipe de candidats. C'est sûr que c'est très révélateur du fait que les libéraux ont tellement eu du mal à compléter leur équipe de 125 candidats. On constate là que malgré des révélations plutôt gênantes, Dominique Anglade semble ne pas avoir le choix de conserver ces candidats-là. Donc c'est révélateur, évidemment, de la situation dans laquelle se retrouve le Parti libéral du Québec et ça démontre sa faiblesse.
Exactement. Alors, moi, face à ça, on va parler du débat demain, Rémi, mais je me dis, François Legault arrive avec devant lui un Éric Duhaime qui est reconnu pour prendre du temps pour payer ses taxes. Une Dominique Anglade qui est prise avec un cadre financier bancal, puis des candidats bizarres, des déclarations contradictoires sur le troisième lien. En tout cas, il y a même son projet éco là, qui demanderait à ce que le Québec soit complètement couvert d'éoliennes. T'as Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait une campagne tout seul dans son coin. Je me demande pourquoi il est stressé, François Legault, mais on s'en parlera demain.
Oui, mais en tout cas, il a eu l'air...
Parce qu'il semble qu'il y a plein de bonnes cartes dans son jeu. Là.
Oui, mais il a eu l'air stressé parce qu'il a eu, des répliques assez acerbes à l'endroit de journalistes qui posaient des questions mardi, et donc tout juste avant sa pause pour se préparer. On a eu l'impression qu'il y avait un petit peu de stress qui entrait en ligne de compte, mais... Comme tu dis, il y a des munitions. C'est sûr que les autres chefs aussi ont des munitions contre lui, notamment ses propos
Absolument,
sur l'immigration.
Mais
quand même, et on en reparlera effectivement plus en détail demain parce que ça va être un exercice vraiment intéressant et c'est là où beaucoup de citoyens s'intéressent là, à la campagne et regardent le débat. Donc, c'est un moment super important.
Antoine Robitaille suit la course au pouvoir, tout en respectant les limites de vitesse, là-haut sur l'autobus.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Mon prochain invité est dans la caravane conservatrice depuis le début de la campagne. C'est Gabriel Côté. Bonjour.
Salut, comment ça va?
Ça va bien. Gabriel est journaliste au bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour QMI. Alors, Gabriel, si je te demandais deux choses à retenir pour cette première moitié de campagne, qu'est-ce que tu soulignerais d'abord?
Ben, je dirais que le Parti conservateur du Québec, même si c'est un nouveau parti qui avait peut-être un peu moins de moyens que les autres au moment de commencer la campagne, a quand même réussi à se donner un bon air d'aller pour commencer. C'était une campagne qui allait bon train. C'était une campagne qui se menait un petit peu indépendamment des autres, un peu en parallèle de la joute politique qui se menait entre les quatre autres partis.
En souterrain avec les médias sociaux beaucoup, hein, je pense.
Oui, c'est ça. M. Duhaime est très, très actif sur les réseaux sociaux. Ça fait une grosse partie de sa campagne.
Puis ils ont gagné
des guerres d'affichage dans certains coins. Moi, j'allais en Abitibi avec Québec solidaire, puis j'étais impressionné. Je voyais des pancartes bleues. Je pensais que c'était le Parti québécois. Non, c'était le Parti conservateur.
À plusieurs endroits, à Québec aussi, on se promène, dans Chauveau en particulier, la circonscription de M. Duhaime, et on voit que des pancartes conservatrices, presque pas de pancartes des autres partis. C'est en effet impressionnant.
C'est curieux pour un parti qui, finalement, a peu d'expérience, peu de vrais militants.
Non, mais ils ont beaucoup de bénévoles très motivés.
C'est ça.
Puis donc,
tu le sens, toi, comme journaliste, je pense.
Oui, on reçoit beaucoup de messages, puis on sent leur motivation.
c'est comme un euphémisme, c'est bon.
donc c'est ça, la campagne allait bon train, il y avait un bon rythme, mais là, il y a eu un grand coup qui a été donné quand le fait que M. Duhaime n'a pas payé ses taxes municipales puis qu'il a reçu 14 avis de défaut de paiement avant de finalement régler la note. Ça, on a senti que ça a dégonflé sa campagne un petit peu pendant quelques jours.
Ah oui?
Puis d'ailleurs, il en fait référence depuis dans ses discours assez militants. On dirait qu'il n'est pas capable de se détacher de cette histoire-là.
Ben oui, d'ailleurs, à la Casa Grecque, c'était mardi soir, ici, dans Chomedey, parce qu'on est dans Chomedey actuellement, il a fait référence clairement.
Oui, puis il a même invectivé les autres partis.
Oui, c'est ça. On peut peut-être écouter un premier extrait de ce discours où il se pose comme en victime, au fond.
Je pensais jamais que d'aider un ami, ça me ferait en sorte que je me retrouverais à une des journaux de façon presque quotidienne depuis quelques jours. Je pensais pas qu'un compte d'Hydro-Québec pas payé d'il y a 12 ans défraierait les manchettes pendant une campagne électorale. J'ai jamais pensé que le livre, là, c'est, j'anticipe sur les nouvelles de demain, là, mais que le retard d'un livre de 3 semaines à la bibliothèque municipale... Non, mais voyez où est-ce que ça s'en va.
Ensuite, il a continué d'en parler un peu plus tard. Parce que, comme tu le dis, on dirait que il essaie de faire du judo avec ça aussi. Il essaie de dire ils veulent nous mettre à terre. Ben nous, on va redoubler d'ardeur. Ça doit nous piquer. Ça doit nous galvaniser, dans le fond. C'est ça.
C'est ça. Il essaie de tourner ça à son avantage puis de s'en servir maintenant comme un outil pour mobiliser sa base puis les inciter à aller voter puis à convaincre eux aussi d'autres électeurs. Je sais pas comme si on a un extrait. Là.
Oui, là, on a un extrait. Le deuxième extrait, c'est que il a minimisé, mais il a reconnu son erreur. Il a reconnu son erreur.
Tout à la fois.
Tout en se posant victime à la fin. C'est une rhétorique assez efficace. On l'écoute.
Ça nous est tous arrivé. Puis je suis pas en train de m'excuser, là. C'est vrai, ce que j'ai fait, là, j'aurais dû m'assurer de surveiller ce que mon ami paye ses taxes. Là. C'est pas ça le point. Ça, c'est vrai, puis j'en prends l'entière responsabilité. Mais je suis un être humain, je fais des erreurs. Et je suis comme vous autres. Je veux dire, c'est arrivé à bien du monde. Je suis pas le premier, puis je suis pas le dernier. Il y a même un ancien premier ministre du Québec à qui c'est arrivé. Ça avait fait un entrefilet dans le journal. Nous autres, ça fait 4 jours ou 5 jours. Là.
Donc, avant cet incident-là, vous vous êtes déplacé quand même. C'est une vraie campagne nationale, mais pas beaucoup quand même.
je dirais que c'est presque une vraie campagne nationale. On a fait probablement moins de millages que les autres partis, mais je ne suis pas capable de te dire le nombre de kilomètres qu'on a fait. Mais la campagne s'est déroulée en saut de puce entre Montréal et Québec. On a beaucoup vu la 20, on a beaucoup vu la 40 aussi. On passait quelques jours à Québec, puis là, on faisait des petites annonces, puis des petits rassemblements dans les restaurants comme le Blackstone, puis le Shaker. C'est toujours des restaurants qui sont très prisés par les conservateurs. Puis ensuite, on se redirigeait vers la région de Montréal, puis le secteur de Laval aussi, où on a passé beaucoup de temps, où on a fait beaucoup de petits rassemblements là aussi. Mais entre tout ça, on a visité d'autres circonscriptions aussi qui ont été ciblées par les conservateurs, pas nécessairement parce que ce sont des comtés qu'ils considèrent comme prenables, mais parce que ce sont des comtés où ils pensent qu'ils peuvent aller récolter plus de votes qu'ailleurs.
Puis ça, une liste? As-tu comme une genre de liste?
Oui, on est allé à Victoriaville, mais là, j'oublie le nom de
cette circonscription.
C'est Arthabasca, où on a eu un petit... il y a des partisans conservateurs qui vont me tomber sur le dos pour ça, mais il y a eu un très honnête rassemblement, je dirais, avec beaucoup de militants. On est allé aussi On a visité des circonscriptions comme celle de Saint-Jérôme, où il y a eu un grand rassemblement. Là aussi, on a visité Argenteuil. On a passé tout un après-midi à La Chute. Puis évidemment, on a passé du temps dans Chaudière-Appalaches, dans Côte-du-Sud. On est allé en Beauce, puis on est allé à Trois-Rivières. L'idée derrière les visites de ces circonscriptions-là, qui sont pas nécessairement prenables, mais où les conservateurs pourraient obtenir plus de votes, c'est que l'ADQ, en 2007, avait fait des bons scores dans ces circonscriptions-là. Ils les avaient même prises dans certains cas. Puis M. Duhaime espère pouvoir recréer la percée de l'ADQ en 2007.
Parle-moi des rassemblements. C'est des rassemblements où il y a pas mal de monde. Par rapport aux autres partis, on a l'impression qu'il réussit toujours à réunir une foule assez importante. Moi, en tout cas, j'ai été impressionné à la Casa Grecque hier sur le boulevard Daniel Johnson, ici à Laval.
Il y a souvent plusieurs centaines de personnes à ces rassemblements, puis l'idée, c'est toujours de faire des démonstrations de force. C'est ça qui répète pour montrer qu'il y a une base qui est mobilisée, puis il tire un grand orgueil du fait d'attirer plus de gens que les autres partis. Ceci dit, il y a peu de curieux dans ces rassemblements-là. Ce sont souvent des gens qui sont déjà très convaincus.
OK.
Et ça, c'est pas nécessairement un problème, mais c'est pas nécessairement un avantage, comme un collègue de Radio-Canada le rapportait dans un texte. Le fait qu'une base est très, très, très mobilisée représente pas nécessairement un avantage au plan électoral dans une démocratie comme la démocratie québécoise.
Ça, c'est bien vrai. Moi, je me souviens très bien qu'en 2018, encore, le Parti québécois réussissait à remplir des salles. Là. C'était des 400 personnes, puis avec des discours enflammés, mais Dieu sait que ça ne s'est pas traduit en vote.
Non, c'est ça, parce que souvent, le militantisme effraie les esprits naturellement modérés comme les gens au Québec, mais en tout cas...
Oui.
Je sors de mon
rôle. Non, c'est une hypothèse intéressante.
Hormis donc les grands rassemblements partisans, ce qui est remarquable aussi de la campagne de M. Duhaime, c'est qu'il va très peu à la rencontre d'électeurs qui ne sont pas déjà convaincus par la cause.
Peu de bains de foule, alors.
Peu de bains de foule. Il y en a eu de mémoire deux qui étaient tous les deux dans des circonscriptions qui sont quand même favorable au Parti conservateur. M. Duhaime a participé il y a quelques jours à une marche en support à l'implantation de l'ITAC à la Pocatière.
Ça, c'est l'Institut technique de vétérinaire, hein?
Oui, c'est ça, l'Institut de médecine vétérinaire.
Oui, voilà.
Truc agricole. Là.
Oui.
pour dire les choses précisément. Donc là, il a rencontré des citoyens, il a fait un discours qui a été très bien reçu, mais les conservateurs sont assez forts dans ce coin-là. Et le deuxième endroit où il est allé, qui n'était pas un événement partisan, c'était au Festival du tir tracteur antique à Sainte-Anne-de-la-Pérade,
okay.
Où là aussi la foule lui était quand même déjà gagnée. Là. Dans les amateurs de concours de tir tracteur, il y avait plusieurs partisans conservateurs là, qui se trouvaient là déjà.
Il va y avoir un gros rassemblement à Québec vendredi. Au moment où on se parle, c'est mercredi, là, dans le hall du Centre Vidéotron. C'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Puis il y a déjà une petite controverse entourant cette histoire-là. Il y avait des billets en vente à 500 $. Et là, l'équipe de M. Duhaime sont en train de se justifier en disant que ce n'était pas des contributions électorales, puisque une partie des frais de ces billets-là à 500 $ allait servir à payer de l'équipement puis des frais de location. Puis selon toute vraisemblance, c'est en adéquation avec la loi du DGEQ.
Moi, je suis sur la caravane depuis lundi et j'avoue que j'ai jamais vu, parce qu'on parlait de la mobilisation des gens puis de leur conviction, j'ai jamais vu des gens dans les autres caravanes. Je suis allé avec Québec solidaire la semaine passée puis avec les libéraux la semaine d'avant. Donc, des gens qui klaxonnent dans la rue, qui envoient des pouces en l'air, donc des appuis donc spontanés, des klaxons,
Ça, c'est assez impressionnant.
Oui, il réussit vraiment à aller chercher quelque chose chez ses sympathisants. Mais je pense aussi chez les gens qui le détestent. C'est arrivé aussi qu'on s'est fait envoyer des doigts d'honneur par des gens qui étaient moins sympathiques à sa cause. Il y a une voiture pendant un point de presse à Québec sur le tramway sur le boulevard René-Lévesque devant une résidence sur le boulevard René-Lévesque qui a klaxonné très très longtemps pour empêcher Éric Duhaime de parler. Donc il y a des marques d'affection comme ça, des klaxons d'affection, mais il y a aussi des klaxons de désapprobation puis de désaccord. Donc c'est vraiment une figure polarisante.
C'est ça, il soulève les passions d'un côté comme de l'autre, puis ça se manifeste ouvertement. Toi, c'est ta première, tu es un jeune journaliste, c'est ta première expérience sur une caravane à couvrir une campagne électorale. En deux, trois mots, là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimais ça?
J'ai beaucoup de plaisir. C'est un rythme qui est effréné. On est toujours en train de faire quelque chose, de chercher des petits détails à aller ajouter à nos histoires. Puis ce qui est intéressant dans l'autobus d'Éric Duhaime, c'est qu'on voyageait dans le même autobus que le chef. Donc, tu en as eu l'expérience, toi, cette semaine, à ton arrivée dans la caravane. Tu as eu ton baptême, c'est-à-dire la petite invitation à aller t'asseoir à l'arrière pour une longue conversation où on apprend beaucoup de choses.
Oui.
C'est un homme charmant, puis de commerce assez agréable, très intelligent aussi. Donc, c'était assez agréable par moment de voyager avec M. Duhaime comme ça. Même s'il y a eu un léger changement dans son rapport avec les journalistes après l'histoire des taxes.
Ah oui.
Où là, il y a eu un refroidissement.
Ah oui, OK. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup, Gabriel. Merci d'être venu à La Haut sur la colline.
Merci à toi.
Cube Radio.